Alors ce n'est pas toute la lettre Patrice Cordet. Patrice Cordet, ça veut dire le cœur du pape. C'est le titre de la lettre du pape François. On a demandé à un séminariste, Jean-Philippe. Nicolas a dit, je vais faire une vidéo sur Patrice Cordet. Et il a répondu, c'est qui? Alors, je trouvais la blague drôle. Et après la réunion des doyens, et lui qui t'a créé aussi, mais il n'était pas séminariste. Et après, ça a été drôle parce que la réunion des doyens, je pensais faire rire tout le monde, personne n'a ri. Parce qu'en fait, je ne savais pas qui était Patrice Cordet. Comme quoi. Donc ce n'était pas toute la lettre. J'ai fait 1, 2, 3, 4, deux pages recto verso. On va essayer de regarder l'introduction. C'est un petit peu là où on trouve tout ce qu'on pourrait savoir sur Joseph. L'évangile, c'est la vie de Jésus. Tout ce que tu veux savoir sur Jésus est dans l'évangile. Donc si tu ignores, comme dit Saint Jérôme, les Écritures, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Ça vous va? Tout est là-dedans. Donc, tous les dimanches, comme ma tante, qui était célibataire, mais un petit peu bien catho, célibataire, alors quand on écoutait le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli, elle pouvait répondre elle avait un peu le dilemme en tête. Elle dit, finalement, nous les catholiques, on n'est pas aussi nuls que les protestants, on n'est pas si nuls que ça. Parce que sa catéchèse, c'était la liturgie. Donc, vous aussi. Ça a fini par rentrer, la messe, les textes, etc. On connaît tout ça. Comment? Parce que j'ai la tête en l'air. Ton petit-fils m'a répondu ce matin à l'école. On sait qui est l'ami. Nous savons qu'il était un âme charpentier. MT, c'est Matthieu. Premier mariage à Marie. Matthieu 1, Luc 1. Et numéro après, c'est les versets. Un homme juste, dit Matthieu. Toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans la loi, Luc, et à travers quatre songes, d'accord, des songes, c'est un peu comme des rêves, après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, parce que c'est toutes les collines de Samarie, hein, d'accord, parce que Israël, il y a la mer, Méditerranée, après ça monte, Jérusalem, c'est à 600 mètres tout le long d'Israël, 660 mètres, et après on descend, il y a une faille vers Jéricho qui est à moins 300 mètres. Il y a une espèce de faille qui traverse entre la Jordanie, la mer Morte et Israël, mais qui va jusqu'en Afrique de l'Est, qui écarte le continent. Donc quand Marie, tu l'as fait la marche toi, Louis, de Nazareth à Bethléem, donc il y a des hauts, des bas et des montées et des descentes, comme surtout qu'ils avaient qu'un âne, c'était pas Joseph. Je pense, mais il n'y a pas de tracteur là. Ouais, j'espère. Ils venaient le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de place pour eux. Bon, en même temps, peut-être que quand ils voulaient accoucher, je pense qu'ils voulaient être tranquilles. Comme vous connaissez l'hospitalité du Moyen-Orient, une femme enceinte, dans la mince, on l'accueille. Enfin, il viendra aider personne de rejeter quelqu'un qui. Voulait peut-être être tranquille, tout simplement. C'est plus cohérent. Ça vous va? Dis quand je parle comme ça vous va? Ok. Il fut témoin de l'adoration des bergers. Il vit la mère, l'enfant, et lui est là, Luc encore, et des mages qui viennent, diront les Perses, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël pour les bergers et les peuples païens pour les mages. Ça vous va? Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. L'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. Toi, tu appelleras le chat, voilà, la roue, etc. 40 jours après naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple, et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie, et d'Anne, la prophétesse. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Il n'y a que Matthieu qui en parle. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans un petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète là-bas. Jamais il n'est question de Nazareth dans l'Ancien Testament. Et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Ce qui est un vache. Si moi je dis quoi, à Sainte-Marie, il ne peut rien sortir de bon. Bon, c'est la dernière fois que vous voyez ici, je me ferai tirer dessus. Enfin, j'ai fait. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple. Donc il est très loin dans le nord d'Israël. Quand, justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus, âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchèrent angoissé. Ils le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec le docteur de la loi au bout de 3 jours. Entre parenthèses, l'éducation c'était très tribal. C'est un village, comme en Afrique, c'est un village qui éduque un enfant. On a perdu ça comme dans votre temps, et dans l'ancien temps, je pense que ça fait ça. L'enfant se baladait, il était chez l'un d'eux, chez le cousin, les voisins. Au bout de 3 jours, il s'aperçoit qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, on ferait un rapport à la DAS. Il le récupère, Marie, c'est elle qui parle. Mon enfant, ton père, ne dit pas ton père adoptif, dit ton père. Et moi, nous te cherchons angoissé. Point, donc, l'angoisse. Un enfant qui a disparu. Imaginez, pourquoi, et c'est beau, Marie pose une question, pourquoi nous as-tu fait cela? Elle beau être l'Immaculée Conception, comme Joseph, la vie n'est pas plus facile pour eux que pour nous. Il faut bien se mettre ça en crâne, hein, la Sainte Famille, mais deux, quoi. Ça veut dire que c'est compliqué, des fois. Ils ont eu des combats à mener, à lutter, pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus, tu réponds un peu facilement, je dois tout à fait de mon père. Bon, t'as l'âge, tu vois. C'est un peu léger, non? Alors, il y a 7 points après qu'on va regarder, assez brillants du pape François. Il a une manière d'écrire simple. C'est le Père aimé. Je lis comme ça vous va? La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Alors qu'Emilienne était à l'école Saint Joseph ce matin. Moi, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va expliquer que Joseph est le père et qu'il n'est pas le père? Voilà. Eux, en plus, sont dans une situation familiale compliquée, des fois, le beau-père, le machin. Bon, ça va être passe comme une lettre à la poste. Il n'y a aucun problème. Les gamins, là-dessus,
il y en a
un
qui a entendu dire, c'est lui qui a donné le nom à Jésus.
Le père adoptif, le père, il est plus de malade. Saint Paul VI observe que sa paternité s'exprimer concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation, l'incarnation qu'on recherche, et à la mission rédemptrice, le salut, qui est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique, dans la surhumaine oblation de soi, le don de soi, de son cœur, et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien. C'est vrai. Il y en a partout. Hein. Toujours aimé par le peuple chrétien. Toujours. Comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Dans le coin, je ne sais pas si on a. Chapelle Saint-Joseph, plusieurs instituts religieux, les sœurs de Saint-Joseph, je ne sais pas quoi, le Sacré-Cœur de Jésus, des petits pieds, c'est pas les sœurs de Sacré-Cœur. Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom. Diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, Thérèse d'Avila, entre autres, qu'il adopta comme avocat et intercesseur. On connaît la puissance, la volonté de Thérèse, qu'elle l'a pris, elle. Vous pouvez faire pareil. Prendre Saint-Joseph avec soi, c'est prendre le bon cheval. On ne se rate pas. Qu'il adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait. Encouragé par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévoué. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'écoles dédiées à Saint-Joseph, Vincius, le pieux Saint-Joseph. Et puis c'est un petit mot du pape qui n'est pas dessus dans ce chapitre, et je vais quitter, c'est assez juste. Jacob avait combien d'enfants? Le petit-fils d'Abraham. Abraham, Sarah, Isaac, le fils, Rebecca, qui auront deux enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de... Oui, ça vous savez. Et en même temps, c'est une ruse de la mère. La mère aimait le cadet. Ça arrive. L'aîné, c'est plus l'image du père. L'aîné est viril, et chasseur, et poilu. Le second, le poète, l'agriculteur. Donc la mère, le fils, le père, l'aîné. Il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et en fait, ce que va faire la femme de Jacob, Rebecca, quand il part chasser l'autre, Ésaü, elle dit, viens là, mon fils. Et fais le plat que Jacob préfère. Quand tu veux faire un tourloup à quelqu'un, fais-lui un bon plat. Bonne viande, des lentilles, bon, ben, tout ça. Après, elle va lui mettre les habits de Ésaü. Troisièmement, elle va prendre la peau du bouc, elle va les mettre sur les avant-bras de Jacob. Et comme Isaac, le fils d'Abraham, est très vieux, très fatigué, le gars gâteux, son fils s'approche, c'est le moment de l'onction. Il a un doute, il le renifle, l'odeur de la vie. La bonne, il a bien mangé avant, il a ouvert l'appétit de l'esprit. Il touche ses avant-bras, il est poilu comme son fils aîné, et il bénit Jacob. Est-ce qu'il va être content, les amis? Il va être furieux. Il y aura la guerre entre nous. Il y aura la guerre entre nous. Une guerre terrible. Ils vont se détester. Et c'est Jacob qui vit. Et Jacob aura 4 femmes, 12 enfants. La 13e, c'est une fille, on n'en parle jamais. Et 12 tribus, Israël. Et Jacob sera appelé Jacob Israël, parce qu'il était poursuivi par son frère. Il fait fuir toute sa famille, il reste tout seul au Yabok, et toute la nuit, il va lutter contre un ange Dieu. Ça vous va? Et Dieu va lui dire, je te bénis Jacob, tu t'appelleras Israël, parce que tu as su lutter contre moi. Il repartira boiteux. Et parmi les 12 enfants de Jacob, il y a toujours une femme préférée des 4 femmes, c'est Rachel. C'est la préférée qui va donner 2 enfants. Benjamin, le Benjamin, c'est le dernier, et Joseph. Joseph sera, oh, c'est une autre histoire, on verra ça de ces jours, ça, j'adore cette histoire, haï par ses frères parce qu'il a le don de prophétie, et Jacob préfère Joseph. Donc ils vont l'abandonner dans une citerne, il sera récupéré par des Ismaélites, la tribu d'Ismaël, qui était le fils de Hagar, la deuxième femme, la servante d'Abraham. Ceux qui vont sauver Joseph, ils vont le conduire en Égypte. Il ira en prison, on a l'histoire. Et après, il deviendra le grand intendant de Pharaon. D'accord? Et il était tellement puissant qu'on disait la confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « Ite à Joseph » qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain à Pharaon, au temps de Joseph, le fils, hein, 12 enfants, et il répondait, Pharaon répondait, allez voir Joseph. En gros, c'est mon homme de confiance. Vous savez, on fait ça dans notre église, des fois dans l'église. Allez voir un tel, sa parole, c'est ma parole. Ça vous va? Donc Joseph, dans l'église, c'est ça aussi. Deuxièmement, ça vous va? Père de la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc. Grandir. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui se lève à nourrisson, tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Le malin, c'est le diable. Au contraire, l'esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité, du pain. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur, le diable. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment en sacrement de réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité. C'est toute la ruse du diable. Il est malin. Il dit la vérité aussi. Mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Toujours. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole « Un homme avait deux fils », Luc 15. Elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous, parce que mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. D'accord ? Donc c'était le deuxième thème, le Père aimé de le Père de la tendresse. Le Père dans l'obéissance. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes. De façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie, quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, la répudier publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. Parce que c'était la loi, c'était comme ça, c'était la loi de Moïse. Dans le premier songe, l'ange, elle, l'aide à résoudre son dilemme. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit. Il fait ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drap et il sauve Marie. Deuxième songe. L'ange demande à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr, Matthieu. Joseph n'hésite pas à obéir sans se poser de questions. Concernant les difficultés qu'il devra rencontrer, il se leva dans la nuit, c'est immédiat, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort de Hérode. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine, selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance, il a été inscrit au registre de l'Empire, comme tous les autres enfants. Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Tout premier-né était offert, il pouvait être le Messie. C'était comme ça. D'accord ? Donc, Joseph obéit, et Jésus a appris la volonté du Père à l'école de Joseph. En voyant Joseph, il a appris à obéir. La lettre aux Hébreux dira que Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance. Le Père dans l'accueil, 4, Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde de la violence psychologique, verbale et physique, envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Il l'a accueillie. Et dans son doute, sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Il reste libre. Il reste libre, Joseph. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception ou de la révolte. Un chômage, une souffrance, un deuil, une maladie. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille. On assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire de l'étape le pas suivant, parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. Ce qu'il dit, c'est un peu vrai. C'est-à-dire, on la reçoit, on ne la choisit pas, on est obligé d'accueillir les événements de notre vie, tous. Et Joseph, comme un homme banal, a été comme cela. L'accueil de Joseph, poursuit pas dans ce point, nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible, dit saint Paul. Et Joseph, il est à la fois fort et faible. Toute sa vie, c'est d'avancer à grâce de Dieu, c'est vrai. Père au courage créatif. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Alors, s'il n'a pas fait pour son fils, pourquoi voulez-vous qu'il fasse pour vous? Honnêtement. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas de logement, où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange avant qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté. Une fois encore, en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte, au cœur de la nuit. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts, mais l'Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé en problème, en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. La providence de Dieu. C'est fort, non? Intéressant. Cet enfant est celui qui dira, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessités, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Devant apprendre de Joseph le même soin, la même responsabilité, aimer l'enfant et sa mère. Aimer les sacrements et la charité, l'Église et les pauvres, chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Ça vous va? Bon, c'est beau, une espèce de truc du peuple qui est toujours un peu créatif. Il donne comme exemple le paralytique dans Saint-Marc. Jésus est dans une maison, à Capharnaüm, la maison de Pierre, et tout le monde est bloqué dehors. Et s'il y a une vedette, il y a trop de monde. Quand il y a des obsèques, il y a trop de monde. On ne peut pas rentrer. Les gens apportent un paralysé sur un brancard, là. Il va passer par où, bonhomme?
Au toit.
Et ils ont été astucieux. C'est le génie de l'homme. Parce qu'il faut une échelle, un truc, enlever les tuiles, ou enlever les branches. Je pense si c'est Luc ou Matthieu. Oui, c'est intéressant. Et Joseph, il a eu des événements compliqués. Mon enfant n'est pas mort, parti en Égypte, pas du tout de son, aménager un truc, une naissance, et personne ne sait pas où on va. On a quitté la lignée de David, comme était de l'unie royale, Joseph. Alors, c'est toujours un peu étonnant que venant Bethléem, il n'y ait personne pour lui donner un logement. Alors, est-ce qu'il a été humilié en même temps? C'est possible. Jean-Baptiste dit ça. Dans sa famille, quand même, c'était pas reçu chez toi. C'est bizarre. Père travailleur, classique. 1er mai. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie du Covid-19 doit être un appel, un rappel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph, dit le pape, travailleur, pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire qu'aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail. C'est vrai. On a tous connu des gens au chômage, et quand ils retournent au travail, c'est une dignité, quoi, vous voyez. Et ça sauve une famille. On était à l'école ce matin, et un gamin il dit c'est quoi un charpentier? C'est celui qui fait les toits, le prof avait dit ça avant, les instituts. Il y en a un qui dit charpentier, il fait les charpentes. Dis, ouais. C'est quoi? Et ben, elle dit la fille, mon père est charpentier. Elle dit, est-ce qu'il est costaud ton père? Oui. Est-ce qu'il a des grosses mains? Oui. Est-ce qu'il a des doigts abîmés des fois? Oui. Et Joseph, au fait, quand il part à Nazareth, on a retrouvé à Séphoris, à 15-20 km de Nazareth, à l'ouest, il y a toute une ville romaine qui est réaménagée. Et on pense que Joseph a sûrement travaillé là. Il bossait, quoi. Et un charpentier, je dis, mais c'est des grosses poutres, oui, non, d'accord. Et c'est facile à assembler, la charpente, si elle est trop lourde, elle doit s'effondrer, si elle est trop légère, c'est toi qui vas passer. Je dis, au gamin, il faut être bête ou intelligent? Il faut être intelligent. Ben oui, il faut être ingénieux, quoi. Parce qu'il était menuisier en même temps, vous voyez. Et donc, on m'avait fait remarquer une fois qu'il y a une grosse différence entre les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens, Jésus est charpentier, c'est un artisan. Il prend quelque chose, une matière brute, il la transforme avec sa raison, son intelligence, pour en faire une œuvre. Mahomet, c'est un commerçant. On vend. Sa manière de fonctionner, ce n'est pas idiot. Les chrétiens, vous verrez, beaucoup plus que les musulmans, ils fabriquent. Artisan, c'est intéressant, la manière d'appréhender la vie aussi. C'est un missionnaire qui m'a fait penser à ça. Père dans l'ombre. On n'en est pas père, on devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant. On voit tous les jours, c'est parce que d'un enfant qui est père. Mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Ça vous va? Dans la société de notre temps, les enfants sont souvent être orphelins de père. Je ne sais plus qui Rossignol, qui était le grand ministre socialiste à l'époque, il dit, quand une bande de jeunes qui passent à se taper dessus, avec des morts, il dit, mais où sont les pères? Il y a un gars qui répond, bah, vous êtes gentil, ça fait 40 ans que vous avez foutu dehors, quoi. Assumez maintenant. Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de pères. L'avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel. Auriez-vous des milliers de pédagogues en Christ? Vous n'avez pas plusieurs pères. Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l'apôtre, c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré, fait naître dans le Christ Jésus. Et aux Galates, il dit, mes petits-enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité, ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, et le rendre capable de choix, de liberté, de débat. Bon, là, on fait comme on peut, en ce moment. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Il va expliquer. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. Tu es à moi, dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment d'amour. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, il étouffe, il rend malheureux. Combien de... On entend ça aujourd'hui dans les journaux, etc. J'étais en couple, je me sentais plus libre. Manipulation, etc. Tout ça. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plaintes, mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères. Il refuse les chefs. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Il refuse celui qui confond autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce, bien sûr, au combien, et dans la vie consacrée. Là, une vocation matrimoniale, célibataire, virginale n'arrive pas à la maturation du don de soi en s'arrêtant seulement à la logique du sacrifice. Alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l'amour, elle risque d'exprimer malheur, tristesse et frustration. Quand on a une question de communication, on parle des passages à vide, les prêtres, les sœurs, mais si t'es toujours triste et malheureux, c'est quoi ta vie? C'est un sacrifice, mais si t'as pas de don de soi, si t'as pas une minute de joie et de liberté, c'est ce qui veut dire, voyez, de quoi t'es signe? La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit, peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu inutile. Quand il voit que l'enfant est autonome, marche tout seul sur les sentiers de la vie. Quand il se met dans la situation de Joseph, qui a toujours su que cet enfant n'était pas le sien, mais avait été simplement confié à ses soins. Au fond, c'est ce que laisse entendre Jésus quand il dit « N'appelez personne votre père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père qui est céleste. » Joseph, une ombre de l'unique Père céleste qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et une ombre qui suit le Fils, « Lève-toi, prends l'enfant, avec toi l'enfant et sa mère, dit Dieu à Saint Joseph. » Le but de cette lettre apostolique, j'arrête, est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, peut-être pousser à implorer son intercession, et pour imiter ses vertus et son nom. Donc le pape a l'art et la manière de nous faire découvrir des trésors de la vie de Saint-Joseph, de l'actualiser. Devant l'exemple de tant de saints et de saintes, qui sont des exemples pour nous, Saint Augustin se demandait ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne pourrais pas. Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s'exclamant, c'est une très belle phrase de Saint Augustin, bien tard je t'ai aimé, ô beauté, si ancienne et si nouvelle. On demandera la grâce à Joseph, qui convertisse notre cœur, dans les difficultés qui nous renferment, comme nous. Et tout n'est pas tracé. On ne naît pas saint, on devient. On ne naît pas père, on devient avec le temps. Et je crois que c'est ça, Joseph, nous apprendre à avancer, à faire son devoir.